Réplique, l'œuvre romanesque de Michel Bernard, avec Michel Bernard et Étienne de Montetti. Comme l'écrit Heidegger dans Être et Temps, nous vivons, aussi rebelles, aussi anticonformistes que nous nous voulions, sous la dictature insidieuse du « on ». Nous nous réjouissons comme on se réjouit, nous lisons, nous voyons et nous jugeons de la littérature et de l'art comme on voit et juge, plus encore, nous nous séparons de la masse comme on s'en sépare, nous nous indignons de ce dont on s'indigne. J'ai beau hanter les librairies depuis mon adolescence, on ne m'avait jamais dit un mot de Michel Bernard. Même le prix France Télévisions, qui lui a été décerné en 2018 pour Le Bon Cœur, n'avait pas éveillé mon attention. Il a fallu qu'une amie, mystérieusement inactuelle et imperméable aux modes, m'en parle avec enthousiasme pour que je décide de combler mon ignorance, et Dieu sait si cela en valait la peine. La communication de sujet à sujet étant le meilleur antidote à l'emprise du « on », j'ai invité aujourd'hui Michel Bernard et l'un de ses meilleurs lecteurs, Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire. Nous parcourons ensemble quelques-uns de ses romans, car Michel Bernard est romancier, mais c'est un romancier qui a ceci de singulier, qu'il ne crée pas de personnages. De Rodin à Ravel, en passant par Jeanne d'Arc, le général de Gaulle, Claude Monet, Maurice Genevoix, Léon Werth, Henri Calais, toutes les figures qui peuplent ces livres appartiennent à l'histoire. Tous ces personnages ont réellement existé. Ce n'est évidemment pas un hasard. Je voudrais donc vous demander, Michel Bernard, quel est le sens éthique et esthétique de ce choix fondamental.
C'est un sens que je dégagerai a posteriori, parce que c'est pas véritablement un choix. C'est d'abord une incapacité, peut-être, à créer ex nihilo un personnage. Et lorsqu'on se lance dans le projet d'un livre, ce qu'on veut faire d'abord, c'est un bon livre, un beau livre. Et il faut chercher en soi, là où il y a de l'écriture, ce qui va résonner, ce qui va profond. Et chez moi, je crois que c'était le plus fort, c'était l'admiration. Et l'admiration, ce qui est une forme de l'amour, et l'admiration, ça me conduisait vers un certain nombre de personnages dont j'étais nourri, souvent depuis l'enfance, qui m'inspiraient et que je voulais saisir avec mes mots pour leur dire mon admiration et la faire partager. Alors, il y a des personnages qui sont très connus, comme le général de Gaulle, qui est un personnage de mon enfance, d'abord vivant de mon enfance. Je suis né en 1958, quelques jours après la promulgation de la Constitution. Et puis des personnages qui sont beaucoup moins connus, comme Henri Calais, qui est un grand écrivain, mais méconnu. Ou un personnage comme celui tout récent des bourgeois de Calais, le maire de Calais, au maire de Wavrin, dont on ne sait quasiment rien. Et là, c'est presque un personnage de fiction. J'ai respecté les éléments que l'on connaît, mais je l'ai imaginé à partir de sa relation avec Rodin.
Cela dit, vous le ressuscitez, en quelque sorte. Enfin, oui. Vous le sortez de l'anonymat, du néant, de l'oubli dans lequel il serait retombé. Et que pensez-vous de cette attitude, de ce choix, qui n'est pas vraiment un choix, nous dit Michel Bernard, Étienne de Montetti.
C'est un choix qui permet à Michel Bernard de leur donner vie, de leur donner une vie, vie qu'ils n'ont plus forcément. Et il est vrai que on s'interroge en lisant Michel Bernard pour savoir si ce qui est dit est authentique, est-ce que les faits le sont, est-ce que les pensées, les sentiments qui sont exprimés le sont. Et au bout de quelques minutes, cette question devient vaine parce que Michel Bernard donne à ses personnages de la vie et une signification. C'est que ces personnages disent quelque chose et au fur et à mesure que le livre se développe, parce qu'il y a souvent une belle multitude de personnages qui se croisent, qui viennent du monde politique, du monde artistique. Ce monde s'anime sous nos yeux avec une signification. Effectivement, il y a beaucoup d'amour dans cette prose. Ça nous rend donc tout cet univers extrêmement sympathique. On a le plaisir de la vie qui traverse un roman et également cette histoire animée qui nous dit énormément de choses sur un temps et puis évidemment sur nous-mêmes parce qu'on est les héritiers pour une grande part de cette France qui est décrite.
Alors, héritiers de cette France, nous commencerons ce parcours par votre dernier livre, paru à la rentrée, Michel Bernard, Les bourgeois de Calais. Le premier personnage qui apparaît, ce n'est pas Rodin, c'est effectivement le maire à l'époque de Calais, Omer de Wavrin, qui a cette idée, avec toute sa municipalité, de rendre hommage à Eustache de Saint-Pierre, principal échevin de Calais, à l'époque où la ville était assiégée par les Anglais au début de la guerre de Cent Ans. Il y a eu un siège terrible de septembre 1346 à août 1347. Le roi d'Angleterre, la ville a dû capituler. Le roi d'Angleterre avait promis d'épargner les habitants et leurs biens, à condition que les clés des portes lui soient livrées par une délégation de bourgeois en chemise, pieds nus et la corde au cou. Et d'ailleurs, il s'apprêtait, parce qu'il était très furieux, le siège avait duré longtemps, il s'apprêtait à leur régler leur compte, mais son épouse, Philippa de Hainaut, qui était enceinte, a intercédé en leur faveur et ils n'ont pas été pendus. Mais eux, qui s'étaient portés volontaires, croyaient effectivement qu'ils allaient à la mort. Et dites-vous, de ce legs d'honneur, de cet exemple de civisme, le siècle du progrès ferait son profit. Donc, Omer de Wavrin va voir Rodin et vous avez saisi ce moment et tout ce qui en est suivi pour écrire Les bourgeois de Calais. Alors, quelle est la raison principale? L'amour que vous avez pour l'œuvre elle-même? Ou bien, dites-le-nous.
C'est l'œuvre elle-même.
C'est l'œuvre elle-même.
Oui, une fascination. Depuis le début. D'abord, elle faisait écho au cours d'histoire de l'école primaire. Les bourgeois de Calais, c'est un épisode de la guerre de Cent Ans qui était souvent imagé dans nos livres d'école. Et puis la découverte de ce groupe statuaire au musée Rodin quand je suis arrivé à Paris à 18 ans pour faire mes études. Et là, c'était une fascination totale pour ces six hommes dans des postures assez étonnantes. Quand on connaît l'anecdote, on voit la signification, hein, mais si on ne la connaît pas, je me mets par exemple à la place des étrangers, on se demande de quoi il s'agit, est-ce que ce sont des fous dans un asile, est-ce que ce sont des esclaves qu'on enchaîne ou qu'on libère, est-ce que ce sont des malades, des désespérés. Non, ce sont des hommes qui réalisent, après leur acte de courage, qui réalisent qu'ils vont peut-être mourir.
Et alors vous dites aussi que l'installation de cette œuvre à Calais n'est pas allée sans mal. Une première maquette avait été acceptée et la deuxième a stupéfié les membres du comité qui devaient s'occuper de sa mise en place. Il n'était pas possible, dites-vous, de donner en exemple des gens dont l'affaissement devant le destin n'inspirait que la commisération. Où était le courage, l'abnégation des bourgeois, le sublime du sacrifice exalté par la première esquisse? Donc la première esquisse, ça allait. La deuxième, c'était humain trop humain, en quelque sorte.
Oui, dans la première esquisse, Rodin fait faire un geste héroïque à part Eustache de Saint-Pierre. Il monte le camp des Anglais. Dans la deuxième version, qui lui avait pas été demandée, c'est lui qui propose une deuxième version. Et à laquelle il tient Bordicus. Les personnages ont les bras... le personnage de Eustache Saint-Pierre a les bras ballants, et c'est lui qui donne les signes d'accablement les plus forts. Et tous ont des gestes de désespérés, à l'exception d'un, Gendaire, qui a les bras croisés, la mâchoire crispée, et on voit qu'il résiste à l'angoisse. Il manifeste sa dignité, mais il a peur d'avoir peur.
Étienne de Montetti.
Alors, je voudrais signaler, dire quelque chose qui m'a frappé, c'est le nom de ce maire de Wavrin, qui est le nom du colonel Passy. Autrement dit, mystérieusement, en évoquant cette affaire des bourgeois de Calais, de Rodin et de Wavrin, Michel Bernard procède, peut-être là un peu fortuitement, mais à quelque chose qui est important dans son œuvre, c'est ce caractère un peu tressé de beaucoup d'éléments qui se réunissent et qui forment une sorte de tapisserie au bois de Bayeux, de tapisserie tout court, où effectivement ce grand tableau de l'histoire et de l'histoire de France est sans cesse présenté. Il y a dans ce livre, au-delà de cette anecdote, des choses tout à fait inouïes. L'histoire des bourgeois de Calais, on la connaît par Jean Froissart, un chanoine qui écrivait en picard, et qui pose là la question de la langue française. Il y a une scène absolument magnifique, moi, qui m'a bouleversé dans ce livre. C'est quand Rodin veut savoir ce qu'il est raconté. Et évidemment, Jean Froissart, il y a beaucoup, beaucoup d'obscurité, qui est l'obscurité du picard, de la langue franco-picard, on va dire, de cette époque. Alors, il va avoir recours à deux types de personnes, et c'est très intéressant dans notre réflexion avec la langue. D'abord, un intellectuel, un écrivain, puisqu'il fait appel à Octave Mirbeau, qui va un peu l'aider. Et puis, comme c'est pas suffisant, il va avoir affaire à quelqu'un du peuple, qui est la femme de la concierge du dépôt des marbres.
C'est la femme du concierge. Son concierge est picard.
Voilà. Et sa femme est picarde. Et c'est elle qui va trouver la clé des archaïsmes contenus chez Jean-François, et dont le patois picard du 19e siècle a gardé la mémoire. Et ça, c'est une scène, je trouve, assez bouleversante.
Oui,
parce qu'elle est
illettrée.
Oui, elle est illettrée.
Donc, elle garde la mémoire ancienne.
Exactement.
Et vous dites, vous avez cette phrase extraordinaire, elle défiait le temps du haut de son ignorance.
Oui, en effet, il y a
ce poids de la langue. Alors, et en effet, la longueur de temps, l'héritage, parce que c'est à la fois Rodin au 19e siècle, deuxième partie du 19e siècle, mais c'est les bourgeois de Calais, c'est-à-dire la guerre de 100 ans, et il y a une résistance d'ailleurs à Calais ou dans la région, non seulement parce que sa deuxième maquette invite plutôt à la commisération qu'à la célébration de l'héroïsme, mais aussi parce que certains ne veulent pas célébrer le courage des bourgeois. Les bourgeois, ce sont les ancêtres des accapareurs, des gens dont la seule patrie était l'argent. Donc il faut vaincre aussi cette résistance pour arriver au bout de l'œuvre.
Oui, dresser une statue sur une place publique, c'est un acte politique. Voilà. Le maire le conçoit comme un acte politique, comme un acte de civisme. Il faut donner en exemple le courage civique. Et évidemment, donc, ça résiste. La fin du XIXe siècle est une époque au moins aussi politique que la nôtre, peut-être encore plus, où le conflit de classe est très marqué. Et donc, rendre hommage à des bourgeois dans une ville qui est une ville qui est devenue industrielle, qui était à l'origine une ville de pêcheurs, d'armateurs, et puis qui, au 19e siècle, est devenue une ville de filature. Et donc, il y a beaucoup d'ouvriers, et la gauche va prendre le pouvoir. Et donc, il y a un conflit sur le projet lui-même. Mais Omer de Wavrin, lorsqu'il passe commande, c'est au mois de novembre, la rencontre avec Rodin, et au mois de mars, il n'est plus maire.
Au mois de novembre de quelle année ?
1884. Et au mois de mars 1885, il n'est plus maire. C'est la gauche qui a pris le pouvoir. Et le maire de gauche confirme la commande à Rodin. Il y a une forme de continuité.
Quand même.
Sur la base du civisme, de l'histoire et de la patrie. Voilà. Ils sont de gauche et de droite, mais ils sont également patriotes.
Ils sont patriotes.
Je voulais dire juste une chose sur la remarque qu'a faite très, très judicieusement Étienne de Montetti, qui connaît bien cette période de la Seconde Guerre mondiale. Oui, je ne m'en suis rendu compte qu'après coup, une fois le livre parti à l'impression. C'est un ami qui s'appelle François Broche, qui est historien, un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, qui m'a dit, mais tu sais, ton Omer de Wavrin, le maire de Calais, c'est le grand-père de André de Wavrin, le colonel Passy, le chef des services secrets à Londres, qui le 18 juin, alors qu'il est rapatrié de Narvik avec son bataillon de chasseurs alpins, le 18 juin, il est un des premiers Français à rejoindre le général de Gaulle. C'est son petit-fils. Et ce qui est fascinant, c'est que pendant deux ans au moins, jusqu'à ce que de Gaulle parte à Alger, il y a, près de Westminster, un exemplaire des bourgeois de Calais, au pied de Westminster. Et donc, le général de Gaulle et André de Wavrin, le colonel Passy, sont passés très régulièrement devant cette statue. Et il est très probable qu'à un moment donné, André de Wavrin a dit au général de Gaulle, c'est mon grand-père. De Gaulle était particulièrement sensible, puisqu'il s'est marié à Calais avec une Calaisienne.
Il est de cette région.
Et donc, ce monument lui est très familier. Ouais. Il y a une sorte de... C'est ça qui me fascine.
C'est ces résonances
dans l'histoire très profondes. Hein. Et puis, cette manière de lier finalement cette femme de concierge que j'ai inventée. Là, c'est un personnage de fiction que j'ai inventé.
Ah bah oui, vous en inventez quelques-uns
oui,
quand même.
Oui. que j'ai inventé de lier cette femme qui est en prise directe, elle, avec le Picard du Moyen-Âge, et de la lier, et on arrive jusqu'au général de Gaulle. Quoi. C'est...
Oui. Alors, autre difficulté, autre conflit, cette fois-ci entre le sculpteur et la ville, la municipalité elle-même. La municipalité veut installer les bourgeois de Calais, une fois l'œuvre terminée, sur un piédestal, sur une estrade. Et Rodin est furieux, il n'était pas question de les faire maintenant monter sur une estrade, pareil à des athlètes de foire en représentation. Il voulait ces bourgeois de plein pied, campés sur un mince plancher de bronze, jetés à même la terre. Pourquoi ce conflit, Michel Bernard, et comment s'est-il résolu ?
Ces braves édiles de Calais, à la fin du 19e, ils veulent faire quelque chose de traditionnel. Ils ont choisi une œuvre révolutionnaire, mais ils veulent la présenter de façon traditionnelle. Et donc, ils veulent un socle. Et Rodin, lui, il a pensé son œuvre, sa vision, c'est six bourgeois de bronze du Moyen-Âge, mêlés à la foule des passants qui vont prendre le train, qui se rendent à la mairie pour se marier, qui vont se promener le dimanche, qu'on soit de plein pied. Lorsqu'on les voit au musée Rodin, c'est une chose qui est la plus saisissante, c'est qu'on est de plein pied avec eux. Hein. Et on peut les toucher. On est face
donc
à face.
Donc ils ne sont plus à Calais, ils sont au musée Rodin maintenant.
Il y en a 12 exemplaires dans le monde.
Ah d'accord.
Donc en France, on en a deux. Un au musée Rodin, mais l'original, le vrai, enfin, ils sont tous vrais, hein. Mais l'original, le premier installé, est à Calais.
Et il est de plein pied ou il est sur une estrade ?
Alors au début, fin 19e, il était sur une estrade, il était à 1,50 m, 2 m de haut, et maintenant il est quasiment de plein pied.
Ouais, sur une place, ah donc là, Rodin a obtenu gain de cause.
Oui, il a obtenu gain de cause, oui. Oui. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir cette municipalité qui sollicite Rodin, qui est à la fois moderne évidemment, mais avec une œuvre collective, et parfois on peut s'interroger sur ce que nos édiles font quand ils ont besoin d'installer de l'art sur les places des villes, avec des gestes architecturaux, comme on dit maintenant, plus ou moins heureux. Là, j'aime beaucoup ce choix municipal, poursuivi effectivement d'une municipalité à l'autre, de faire d'installer, de faire cadeau aux Calaisiens d'une œuvre qui dise quelque chose de leur histoire, une histoire à la fois tragique et courageuse, une histoire collective, puisqu'ils sont si bourgeois, il y a une signification politique et mémorielle très très forte qui est très belle et qui est à l'honneur de la municipalité de Calais.
Alors, un dernier mot sur Rodin et sur ce livre. Une silhouette apparaît lors d'une visite, je crois, de Wavrin, au maire de Wavrin. De Wavrin, on dit, ou de Wavrin ?
De Wavrin dans le Nord.
De Wavrin dans le Nord, donc voilà. Ben, je parle comme dans le Nord, Étienne de Montetti.
Moi, je parle comme dans le Sud.
Rilke est là. Avec Rodin, et j'ai pensé à lui, bien sûr, à son petit livre magnifique intitulé Auguste Rodin, notamment quand j'ai lu que le Balzac de Rodin avait fait scandale, il a été refusé, je crois.
Refusé, oui, il est resté la propriété de Rodin, oui, il n'a jamais été exposé avant la mort de Rodin.
Et il avait été qualifié, à propos de ce Balzac, de Michel-Ange du Goître, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oh, il a eu des insultes de toutes sortes. Un journaliste, on voit que les journalistes étaient très inspirés, hein, parce que les qualificatifs sont souvent pleins d'esprit. Hein, donc j'ai retenu celui-ci, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Hein, un phoque endimanché, un crapaud dans un sac. C'était les inventions des journalistes. Hein.
Il s'est inspiré, mais assez bête, et heureusement qu'on a eu Rilke, quand même.
Au plan esthétique, c'est totalement bête, oui.
Oui. Alors, je veux dire, quelques lignes du passage que Rilke consacre à ce Balzac. Alors d'abord, on voit que Rodin s'est beaucoup documenté, il a lu tout Balzac, il est allé en Touraine, enfin, etc. Et puis alors, il a fait poser des modèles, des gros hommes trapus aux membres lourds et aux bras courts qu'il utilisait. Ça lui plaisait pas suffisamment, rien n'était donné, rien de définitif. Il retourna à la description de Lamartine, on y lisait. Il avait le visage d'un élément, il possédait tant d'armes qu'elle portait son corps lourd comme rien. Et ce sont ces phrases qui ont inspiré Rodin. Lentement, de forme en forme, grandit sa vision. Et enfin, il le vit. Il vit un corps large, aux pas puissamment allongés, qui perdait toute sa lourdeur dans la chute du manteau. Sur la nuque forte s'appuyait la chevelure. Et renfoncé dans les cheveux se trouvait un visage qui regardait, qui était dans l'ivresse de regarder, où la création écumait. Le visage d'un élément. C'était Balzac, dans la fécondité de son abondance, le fondateur de génération, le gaspilleur de destin. C'était l'homme dont les yeux n'avaient pas besoin d'objets. Si le monde avait été vide, ses yeux l'eussent aménagé. C'était celui qui avait voulu devenir riche par des mines d'argent légendaires et heureux par une étrangère. C'était la création elle-même qui se servait de la forme de Balzac pour apparaître, l'orgueil de la création, sa fierté, son vertige et son ivresse.
C'est magnifique. Hein ?
C'est beau, non ?
Ah ouais, c'est magnifique.
Et c'est vraiment ce que nous inspire cette sculpture inouïe. Donc, laissons maintenant le Michel-Ange du Goître et ouvrons un autre très beau roman, Deux remords de Claude Monet, contemporain de Rodin et qui apparaît d'ailleurs aussi dans Les Bourgeois de Calais. Alors, quels sont ces remords, Michel Bernard ?
Ça, j'allais pas dire que c'est une invention, c'est une interprétation, voire un délai d'interprétation de ma part. Monet était réputé quelqu'un d'un extrême égoïsme, voire d'un égocentrisme. Et y compris ses amis lui avaient reproché notamment son attitude envers sa première femme, qui est morte d'un cancer, elle avait à peine 30 ans, de façon extrêmement douloureuse, et Monet continuait de peindre.
Il lui reprochait d'avoir continué à peindre après sa mort ?
Non, de peindre alors qu'elle était agonisante.
Ah oui, d'accord.
Il la peindra même morte.
Il la peindra morte, mais ça personne ne le savait.
Sans émotion presque.
Personne ne le savait.
On ne sait pas ça.
Alors on ne sait pas.
C'est un des plus beaux tableaux de Rodin, mais il est vrai qu'il a le coup d'œil professionnel jusqu'à ce moment-là.
Ce tableau de sa femme sur son lit de mort, il ne le montrait pas. Il n'y en a qu'un qui l'a vu, il l'a montré à Clémenceau, qui était son meilleur ami. Il ne l'a pas détruit, mais sans doute avait-il honte de l'avoir fait.
Ouais.
Hein, et donc j'ai imaginé ces deux remords parce qu'il m'a semblé qu'ils existaient. Et le premier, c'était Basile. Hein. Basile, Monet, en 1870, pour échapper à la conscription, alors qu'il avait été soldat en Afrique, hein, il était chasseur d'Afrique, s'enfuit à Londres, avec sa femme et son enfant, alors que Basile, qui lui était riche, une riche famille de Montpelliéraine, s'engage et se fait tuer à Beaune-la-Rolande. Et on sait que lorsqu'il y a eu une exposition rétrospective de l'œuvre de Basile, mort à 29 ans, à la fin au début du XXe siècle, Monet y a participé. Il y a prêté beaucoup d'attention. Il est venu à l'inauguration. Il y avait de sa part comme une sorte... Il acquittait une dette, parce que Basile, qui était riche, l'avait beaucoup aidé quand lui était très pauvre, et qu'ils étaient très amis, partageant même le même atelier. D'ailleurs, c'était l'atelier de Basile dans lequel Monet était hébergé.
Il lui achète le déjeuner sur l'herbe.
Edith Montetti.
Il lui achète le déjeuner sur l'herbe pour l'aider financièrement à ce moment-là. Et c'est une œuvre qui est particulière dans l'œuvre de Monet, parce qu'elle se... Elle se promène d'acheteur en vendeur et effectivement c'est un petit peu la preuve de ce remords de Monet.
L'histoire de tableau qui est au musée d'Orsay est très émouvante puisque Basile l'achète pour aider financièrement Monet. Basile l'installe chez son père à Montpellier. Son père devient sénateur. Un jour il y a une exposition près du Sénat des peintres impressionnistes. Le père s'y rend, savait que c'était des amis de son fils. Et là, il voit le portrait de son fils, qui est mort à la guerre, par Renoir. Le sénateur va voir le galeriste en lui disant « Je veux acheter ce tableau, c'est mon fils. » Et le galeriste lui dit « Il n'est pas à vendre, il appartient à Édouard Manet. » Alors le père va voir Manet et lui dit « Vous comprenez, c'est mon fils, je voudrais vous racheter ce tableau. » Et Manet dit au père de Basile « Je ne vous le vends pas, en revanche, je vous l'échange contre le tableau de Claude Monet, femme d'au jardin, que vous avez. » Et voilà comment le tableau de Claude Monet est arrivé chez Édouard Manet. Et à la mort de Manet, Claude Monet est allé voir la veuve de Manet, lui a dit « Je voudrais récupérer ce tableau ». Et il lui a racheté, parce qu'elle était devenue pauvre, et il lui a racheté son propre tableau. Et il l'a gardé dans ses propres collections. Et lorsque... c'est bouleversant, vous voyez, il faut raconter ce genre de choses. Et lorsque Monet a fait don des nymphéas à la France, après... la victoire en 1918, il a mis comme codicille ce tableau « Femmes au jardin », dans lequel d'ailleurs figure trois fois sa première femme. Je souhaite qu'il soit installé au Louvre. Et il est aujourd'hui au musée d'Orsay.
Revenons quand même sur Camille, et ensuite on parlera de Frédéric Basile. Donc en effet, elle meurt dans d'atroces douleurs, longue agonie, c'est dur de mourir, son cancer, et il dit, quand même, vous dites, et aussi égoïste qu'était Monet, la douleur avait quitté la femme pour saisir le mari. Son désespoir prit des formes effrayantes, celles d'une colère sans objet, sauf contre lui-même. Mais il est vrai, il a peint la morte. Il a peint donc sa dernière empreinte sur la terre, entourée d'un mouchoir blanc qui maintenait la mâchoire inférieure. On voit ce tableau. Et effectivement, il confesse, peut-être à Clémenceau, l'espèce de conscience professionnelle, l'instinct de peindre qu'il avait conduit à rechercher dans la peau du visage adoré des taches de couleurs nouvelles et apparentes, celles de la chair inerte. Donc il restait professionnel jusqu'à ce moment-là, mais la douleur était quand même présente. Et puis vous dites, c'est ça qui est très impressionnant, c'est qu'il a épousé ensuite en seconde noces Alice, la veuve d'un marchand
Ochédé,
oui. Ouais. Et celle-ci était d'une jalousie rétrospective absolument féroce, donc avait éliminé toute trace de la pauvre Camille. Il n'avait presque plus rien gardé, mais il y avait quand même ce tableau-là.
Sauf les tableaux. Et il lui a, alors on ne sait pas si c'est Monet lui-même qui a détruit les lettres sur les demandes d'Alice, ou si c'est Alice elle-même qui les a détruites, mais il a détruit toutes les lettres. Donc on n'a aucune lettre de Camille, la première femme. Mais il faut dire à la décharge d'Alice, c'est qu'il y avait partout des tableaux représentant Camille. Et notamment, lorsqu'on visite la maison de Giverny, dans la chambre à coucher de Monet, il y avait d'un côté le portrait de Monet par Renoir, et de l'autre côté de la porte, le portrait de Camille par Renoir. Et donc, Alice Ochédé passait tous les jours devant la représentation de la première femme, qui était très belle, alors qu'Alice l'était moins.
Ah d'accord, c'est pas tout à fait sa décharge. Il avait un passé, quand même, elle le savait.
Passé, oui.
Et Monet n'a pas peint Alice, je crois.
Non.
Il n'a jamais peint. Alors qu'il y a beaucoup de magnifiques choses concernant Camille. Il y a la capeline rouge, oui. Il y a ce très joli portrait où elle est en vert, ça s'appelle Femme en vert peut-être, où on voit vraiment cette très jolie fille. D'ailleurs, Camille, avant d'être la femme de Monet, elle est son modèle.
Il épouse son modèle.
Oui. Oui. Et alors qu'Alice ne deviendra que la morganatique et jamais le modèle.
Il la peindra du temps où elle était la femme de Ochédé.
Mais
il la peindra, mais comme une silhouette quasiment. Alors que Camille, oui. on la reconnaît.
On la reconnaît. Alors, venons-en à Basile, parce que il faut dire que votre livre s'ouvre sur la mort de ce jeune peintre. Enfin, on ne sait pas qu'il est mort. C'est son père qui part à sa recherche et qui le découvre. Et c'est absolument bouleversant. Et ce qui est énigmatique et bouleversant aussi, c'est que Basile, peintre très prometteur de toute cette bande d'impressionnistes, enfin, Renoir, Sisley, Monet, lui, eh bien, 19 juillet, je crois, 1870, la guerre est déclarée par un régime que vous dites usé et prétentieux, en quête de jouvence dans le sang répandu de sa jeunesse. Donc, on se dit, il aurait mieux fait d'agir comme Monet, de fuir. Oh non, il se présente au mois d'août au bureau de recrutement de Montpellier. Il va faire ses classes en Algérie et il meurt d'hiver 71, 70.
Oui, au début du mois de décembre 1870.
Voilà. Fin 70,
dans la neige, devant Bonnard-Hollande.
Dans la neige. On se dit, mais pourquoi a-t-il fait cela? Et c'est une question qu'on se pose, mais je crois que là, on en vient vraiment à un thème très important pour vous. C'est le moment où la nation devient patrie. Et donc, ce patriotisme, on va le revoir évidemment à l'œuvre dans la guerre de 14, c'est quelque chose qui vous émeut beaucoup et que vous admirez, même s'il peut s'agir d'une guerre absurde.
Oui, quand il s'engage, c'est déjà très mal engagé, si j'ose dire. Donc il s'engage parce que ça va mal et qu'il faut faire quelque chose. Ça va très mal, et c'est justement parce que ça va très mal qu'il va se faire tuer trois mois plus tard, parce que l'armée est totalement désorganisée, et les combats qu'il mène sont des combats de désespérés. Mais le besoin de servir est le plus fort, contre la raison. Alors que chez Monet, le désir de peindre est plus fort. Il y a chez Basie quelque chose de une mort pathétique et qui renvoie à la mort des plus simples. Parce que en même temps que lui se fait tuer, mais il y a ses soldats autour de lui, lui les lieutenants, qui se font tuer en même temps que lui, qui sont des paysans, des artisans. Ils partagent le sort commun.
Et que pensez-vous justement de ce thème, ce leitmotiv quand même dans l'œuvre de Michel Bernard, le rapport à la patrie, le désir de partager le sort des plus humbles dans des moments comme cela?
Oui, Montetti. Il y a des mots de Michel Bernard décrivant la mort de Frédéric Basie qui sont quasiment ceux de qu'on pourrait imaginer pour Peggy mourant au début de la guerre de 14. Mais surtout, ça met l'artiste, selon Michel Bernard, dans une position qu'on a peut-être un petit peu oubliée. J'avais une formule qui vaut ce qu'elle vaut. Position de l'artiste avant Rimbaud. C'est-à-dire que Rimbaud a installé dans notre imaginaire français l'idée que l'artiste était un rebelle, c'était un anarchiste, c'était quelqu'un qui s'extrayait du sort commun, de la foule. Or, là, les personnages qui sont décrits par Michel Bernard, que ce soit dans leur vie quotidienne, Claude Monet vit comme un grand bourgeois assez vite, posément, et puis après, son génie s'illustre dans ses œuvres. Le Rodin, d'ailleurs, des bourgeois de Calais, il y a ça aussi. Il y a des descriptions très amusantes de la vie quotidienne de Rodin avec sa gentille épouse Rose Beuret, qui lui fait la soupe. Et Basie est aussi un fils de famille. La description de sa famille, c'est des notables de Montpellier. Il est absolument pas rebelle, même s'il a un feu intérieur qui est celui de sa passion pour la peinture. Et donc, très naturellement, il va faire son devoir, finalement, de français. Quelque chose qui peut nous paraître un peu étonnant, mais qui à l'époque va de soi. La guerre éclate et Frédéric Basie va faire son devoir. Il y a des pages magnifiques sur l'Algérie parce que je trouve que Frédéric Basie c'est la lumière, c'est le sud, c'est l'Occitanie, c'est le pendant lumineux d'un Monet homme du nord de la Loire.
Basile, et d'ailleurs on dit Basile parce qu'il est méridional. Il est de Montpellier, hein, et ses toiles reflètent la lumière de la Méditerranée, hein, la lumière du Midi. Monet, lui, est parisien et normand,
ouais,
c'est l'homme du Nord.
Oui, mais alors justement, vous dites que c'est la littérature d'avant Rimbaud, mais là, je saute à un autre livre, Le corps de la France. Et dans ce livre, vous parlez d'Henri Calais. Nous reviendrons ensuite à Monet et peut-être aussi à Ravel. Et Calais était un anarchiste littéraire, justement. Célinien et peut-être un peu rimbaldien, insolent, désinvolte, etc. Et il a fait la guerre en 40, il a connu la débâcle, il a été capturé. Et là, vous avez des phrases très puissantes, Michel Bernard. La capture l'avait moins dépossédé de lui-même que de son propre pays. Ce fut une révélation. C'est-à-dire, la patrie lui est apparue au moment où il en était privé. Le pays qu'on lui avait arraché, dont il sentait le trou béant dans ses entrailles, il l'éprouvait pour la première fois. Cette souffrance à la place du cœur, c'est donc cela qu'on appelait ma patrie. Il n'en restait plus qu'un patrimoine de douleur. Il aurait voulu dire comme avant, parce qu'il le croyait, je m'en fous, rien ne sortait. Il ne s'en foutait pas. Donc, c'est toujours cette espèce de basculement. Tout d'un coup, le pays dans lequel vous vivez, comme dans une évidence, vous devient très cher du fait de la lueur de la menace, du danger, voire dans ce cas précis, de la débâcle.
Oui, je crois qu'en fait, nous sommes tous patriotes. Tous. Y compris ceux qui le dénient. Seulement, il y en a qui sentent, qui craignent, qui ont peur pour leur patrie, qui vivent dans une sorte de crise, qui ont peur de son effacement, de sa disparition, de son humiliation éventuellement, et puis d'autres qui ne le ressentent pas. Mais au moment où le drame arrive, au moment où l'abaissement est là, tous le ressentent. Et Calais en témoigne. Il a écrit là-dessus un livre qui s'appelle Le Bouquet, admirable, sur son expérience de la débâcle. Et sur la route de Clamecy, il est fait prisonnier sur la route de Clamecy. Il est rattrapé par des motocyclistes allemands qui les obligent à jeter leurs armes sous la menace de leur mitraillette. Pour lui, c'est le chemin de Damas. Et à partir de là, de ce moment-là, de cette minute-là, tout est changé de sa vie. Et jusqu'à sa mort, ensuite, tous les 14 juillet, il va aller au Monument aux Morts. Il va écrire constamment, il va écrire des articles magnifiques sur les résistants enfermés à Fresnes. Il va écrire un livre complet sur les inscriptions mises par les condamnés à mort sur les murs de Fresnes. Il va avoir, jusqu'à la fin de sa vie, ce souci de la patrie. Et curieusement, il est mort un 14 juillet. En faisant l'amour.
Ah bon?
Oui.
En effet. Alors, on ne sait pas comment prendre le relais après cette révélation. Alors, j'aurais dit un passage de la tranchée de Calonne, qui là aussi éclaire le rapport que vous avez avec la patrie et même avec la guerre, et notamment la Grande Guerre, celle qui a ouvert le court XXe siècle. Ils disent qu'il y a une énigme de la guerre. Est-ce que ce fut trop demandé aux générations suivantes que de se tenir dans cette énigme, de ne pas résoudre la contradiction, de ne chanter ni l'amour de la terre natale, ni clamer la détestation de la guerre, mais de considérer les deux en même temps et de tenir sa pensée dans la tragédie? Car, et c'est vrai, cette hécatombe, c'est pas tout à fait la même chose évidemment que la guerre de 40, où là, en effet, il n'y avait pas le choix, c'était la civilisation contre la barbarie, il s'est passé autre chose dans la guerre de 14, mais vous admirez toujours le courage de ceux qui ont quand même, qui se sont sacrifiés pour défendre leur patrie. Alors, Michel Bernard.
Je suis de Bar-le-Duc.
Ah oui.
Oui, c'est... Donc je suis meusien. Bar-le-Duc, c'est à 40 km, 45 km 50 en dessous de Verdun. Et d'ailleurs, la route qui relie Bar-le-Duc à Verdun s'appelle la Voie Sacrée. Et Bar-le-Duc, c'était l'arrière-front de 14 à 18. Et pendant toute la bataille de Verdun en 1916, c'était un endroit très important, puisque c'était là que débarquaient du train les troupes, avant de monter en camion vers Verdun. Et d'y prendre leur tour aux tranchées, dans des circonstances qui étaient absolument effroyables. Et mon pays, là où j'ai grandi, là où je vis, est parsemé de cimetières qu'on appelle des cimetières militaires, des nécropoles. Je les ai vus quand j'étais petit. C'est des endroits très étranges, hein, des centaines des hectares, avec des croix alignées, blanches. Hein, et lorsqu'on se déplace en voiture, les croix se déplacent avec vous. Il y a une sorte d'effet géométrique assez fascinant. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, adolescent, etc., j'ai compris ce qu'étaient ces cimetières, leur signification et ce qui s'était passé à ces endroits-là. Je les vois encore très, très régulièrement. Je m'y arrête toujours. J'ai toujours un instant, parfois je rentre dans le cimetière, et j'y pense.
Et donc maintenant, alors venons-en justement à Ravel. Et là, je vous interrogerai directement, vous, Étienne de Montetti, parce que c'est le livre s'appelle...
Les forêts de Ravel.
Les forêts de Ravel. Et ce serait intéressant, vous prenez Ravel, mais je regarde donc Étienne de Montetti, Michel Bernard... choisi et d'écrire un livre sur Ravel, mais à propos d'abord d'un épisode très particulier, Ravel s'engage et il fait des pieds et des mains pour être mobilisé, car il était trop petit, enfin, il ne répondait à aucun des critères, il fait jouer ses relations pour justement être mobilisé. Donc, il ne fera pas la guerre comme soldat, comme fantassin, mais il conduira un poids lourd entre Bar-le-Duc, justement,
et Verdun. Alors, que pensez-vous de ce choix, Étienne de Montetti?
Oui, ben on y venait par effectivement la description que Michel Bernard faisait de ce pays, qui est magnifiquement décrit dans les forêts de Ravel, parce que notre émission, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur l'importance des paysages,
oui,
dans l'œuvre de Michel Bernard. Le Nord, il y a des pages magnifiques sur le Nord dans les Bourgeois de Calais, et puis la Normandie avec Monet. Et là, c'est véritablement autour de Verdun, et ces forêts de Ravel est un livre magnifique parce qu'évidemment c'est Ravel ramené aux dimensions modestes du soldat qui fait son devoir sur la voie sacrée dans ce brouhaha, ce tintamarre incessant qu'on imagine entre les bombardements, le bruit des camions, le bruit de tous les moteurs, les cris des soldats. Et c'est évidemment un compositeur génial qui est au milieu de tout ça. Et il y a une sorte de méditation sur le bruit, sur le silence, sur la composition. Il y a notamment des pages sur les oiseaux après à la calmie, après un bombardement, qui sont magnifiques. C'est donc ce qui, dans cette situation extrême du siège, de la guerre, de cette guerre moderne absolument effroyable, ce qui va sortir avec Ravel, également avec, il y a des réflexions sur les compositeurs allemands, avec ce concerto pour la main gauche, et puis oui, c'est le titre, oui, exact, voilà.
Écrit pour Wittgenstein, le pianiste,
pour frère Wittgenstein, du philosophe. Oui. Voilà, et donc cette musique, cet art qui va sortir mystérieusement de ces scènes dantesques du siège de Verdun.
Alors là encore, cette guerre était un climat sombre, une contrée sinistre, une force qui de l'homme absorbait toute joie et lui versait à la place, droit au cœur, le lent poison du désespoir. Personne ne pouvait comprendre, sauf ceux qui étaient là. Ravel n'aurait pas voulu être ailleurs. Et vous dites, Étienne de Montetti, qu'il y a les lieux, il y a aussi les noms. Les noms ont beaucoup d'importance dans votre œuvre. Et là, vous dites, par exemple, entre Bar-le-Duc et Verdun, s'égrenaient des villages aux noms étrangement funèbres, aux sonorités sourdes et inquiétantes, Rumont, Hérisse la Brûlée, Rhône, Eppe, Lemme, Regret, Moulin Brûlé. C'est tout à fait extraordinaire. Donc là encore, vous avez choisi ce moment particulier dans la vie de Ravel. Ravel, le génie absolu qui partage le sort de tous.
Voilà, le génie absolu et qui nous bouleverse. J'étais bouleversé, comme pour les Bourgeois de Calais, par le concerto pour la main gauche en particulier. J'aime toute l'œuvre de Ravel. C'est vraiment mon musicien préféré. L'homme est délicieux également. Et le concerto pour la main gauche, il l'a écrit sur la commande de ce musicien pianiste virtuose autrichien, Wittgenstein, qui avait perdu son bras droit à la guerre sur le front russe, et qui donc commandait au meilleur compositeur de son temps, il était riche, au meilleur compositeur du temps, des concertos pour la main gauche. Il en a commandé un à Ravel, il en a commandé un aussi à Bartok, Stravinsky aussi, je crois. Et Ravel était à ce moment-là en train de composer le concerto en sol. Il travaillait comme un forçat, il avait beaucoup de mal. Il arrête aussitôt qu'il a la commande et il écrit assez vite le concerto pour la main gauche. Pourquoi est-ce que ça va si vite? Pourquoi est-ce que ça va si bien? Et pourquoi est-ce que ce concerto est si bouleversant? Il y a dedans une partie de piano, quelques notes de piano qui vous brisent en deux. Et c'est même pas mélodique. Quelques notes de piano, mais qui littéralement vous font fondre, ou vous font venir les larmes aux yeux. Dans une musique qui est un immense chaos. Ben, si vous écoutez le début du concerto pour la main gauche, ça commence comme un grondement. Ben, c'est très probablement, et très simplement, ce que Ravel, qui était affecté dans un hôpital à 12 km du front, comme conducteur, c'est ce qu'il entendait de la bataille qui se déroulait 10 km au-dessus. À Verdun. Il entendait ce grondement. C'est de la musique descriptive. Et dedans, il y a le piano qui est sans doute l'individu broyé dans la machine. Ce concerto vient de la guerre. Et donc là, on a, comment dirais-je, une œuvre géniale, et on voit d'où elle sort. Et elle sort d'un événement qui fait des millions de morts. Et qui, chez moi, a produit toutes ces croix. Et des millions de morts, et l'immense océan de chagrin tout autour. Parce que ces morts avaient une femme, des parents, des grands-parents, des enfants. Et chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il y a une onde de chagrin immense qui se répand et qui dure et qui nous affecte encore aujourd'hui. Dans la famille de mon père, mon arrière-grand-père a perdu l'usage de ses deux jambes à Verdun. Il était gravement blessé au bassin. Il était paysan. Donc à 40 ans, il s'est retrouvé invalide. Et son fils aîné, à 20 ans, a été tué sur la Somme. Vous voyez, ces paysans, ils étaient de Montjardin, un hameau pas très loin entre près de Limoux, près de Chalabre. Ces paysans, le chef de famille avait perdu, ne pouvait plus travailler, et son fils aîné, qui devait reprendre la ferme, était tué et était enterré dans la Somme. Vous voyez, et ça agit ensuite, ça agit sur mon père évidemment, et ça agit sur moi.
Et ça agit sur vous. Alors, vous ajoutez aussi autre chose à propos de cette œuvre. C'est quand même très intéressant. Chez Ravel compose cette œuvre dans les conditions que vous avez dites. Il est fait entendre la guerre, en effet, musique descriptive. Et Wittgenstein, Paul Wittgenstein, qu'il avait lui-même rencontré à l'issue d'un concert de Richard Strauss, Paul Wittgenstein la joue, mais il avait augmenté les phrases du piano de quelques arrangements personnels, et Ravel est absolument furieux. Il ne lui parle plus, il lui interdit d'interpréter son concerto en France, et la création, la véritable création a eu lieu à Paris, quelques semaines seulement avant la mort de Ravel. Il n'était pas vraiment en état d'ailleurs de l'apprécier tout à fait. Mais ça restait, si vous voulez, un musicien exigeant qui ne voulait pas qu'on fasse des arabesques autour de son œuvre. Et ça, c'est très beau aussi. C'est très beau. Alors, maintenant, revenons à ce livre que vous avez tant aimé, Étienne de Montetti, Le corps de la France, pour finir. Alors, je peux pas évoquer tout, je peux pas évoquer la figure extraordinaire de Léon Werth, mais parlons d'un grand homme qui vous a beaucoup marqué, Michel Bernard, le général de Gaulle. Alors, dites-nous quelques mots du général de Gaulle au Canada français, Étienne de Montetti.
Oui, Le corps de la France est un livre très intéressant dans l'œuvre de Michel Bernard qui, d'une certaine façon, le résume ou peut-être une bonne introduction à cet univers avec ces guirlandes où on passe effectivement de Léon Werth à Calais et puis à d'autres personnages.
À Genevoix,
bien sûr.
Ah oui, Genevoix, dont
on
n'a
pas assez, on n'en a pas assez parlé, ouais. Mais les forêts de Ravel viennent beaucoup de Genevoix et de Sud 14. Le Tour de France également comme une sorte de lieu de mémoire français. Et puis le général de Gaulle. Alors le général de Gaulle, personnage, je dirais, presque banal de l'histoire de France, est pris dans un temps particulier, et ce chapitre me touche particulièrement parce que c'est le général de Gaulle à la fin de sa vie, à la fin de sa présence à la tête de la France. Il va au Québec, la fameuse histoire du Québec libre, mais surtout, c'est la rencontre du général de Gaulle avec l'histoire de France, parce que le Canada, le Québec de cette époque-là, c'est la France du 17e siècle. C'est une langue chimiquement pure, qui est peut-être celle de Racine et de La Fontaine, dont Michel Bernard dit que ce sont des noms repris d'ailleurs au Québec. Et général de Gaulle se retrouve comme une sorte de devant un miroir, c'est le miroir de l'histoire, le miroir de ce pourquoi il s'est battu. Et il y a des pages sur la langue, qui est un élément aussi également important de cette œuvre littéraire dont on a parlé. On en a parlé pour Jean Froissart avec Les Bourgeois de Calais. Dans un livre qui s'appelle 1814 également, il y a toute une réflexion sur la langue de Napoléon et qui sont des choses très très intéressantes sur le rapport entre le pouvoir et l'expression française, et donc le général de Gaulle au Québec dans cette espèce d'ivresse de voir ce pays un petit peu figé, ce rapport à l'époque extrêmement fervent entre le Canada et la France, la France dont ils attendaient tout, qui a pu les décevoir. Et le général de Gaulle est pris d'une sorte de vertige, d'ivresse, quelque chose d'un peu irréel, inexplicable. Et peut-être que cette saillie, vive le Québec libre, qui a provoqué évidemment un scandale diplomatique et politique, est venue de ce vertige du général de Gaulle allant à la rencontre de l'histoire de France qu'il avait tant aimée, qu'il a essayé de servir.
Oui, l'appel au Québec libre, dites-vous, était un défi inouï aux bonnes manières, à tous les usages des relations internationales, au bon sens et aux choses comme il faut.
Et effectivement, l'intérêt de la France ne se retrouvait pas dans cette histoire, et le gouvernement français, tous les ministres étaient, Pompidou en premier, étaient concernés et livides. Et vous dites que de Gaulle avait été aussi très marqué par la lecture, je crois, de Maréchal Delaine.
Oui, Maréchal Delaine, très beau livre.
Un livre d'un expatrié, Aymond.
Oui.
C'est ça, Louis Aymond, qui est mort, il marchait le long d'une voie ferrée, il a été happé par le train dans l'Ontario.
Oui, c'est ça.
Et c'est un très beau livre, vous dites.
Ah oui, c'est un beau livre, oui. Oui,
et
oui.
C'est le livre qui a fait prendre conscience au général de Gaulle de ce que représentait de français le Québec
ce livre,
sur le continent américain.
Mariage de Delaine a été publié après la guerre de 14 et a eu un succès énorme. Il s'en est vendu des centaines de milliers d'exemplaires et le général de Gaulle l'a lu, bien sûr.
Et le général de Gaulle l'a lu, et le général de Gaulle est un personnage qui vous est particulièrement cher. C'est votre grand homme.
Quand j'étais enfant, je le voyais à la télévision. C'était un personnage totalement étonnant. J'entendais sa voix. Et puis après, ça c'est là pour l'enfant, et puis après je l'ai lu. Les Mémoires de guerre, c'est un grand écrivain. Il y a une profondeur, et puis un sens de la continuité historique, un art de parler qui est extraordinaire,
oui,
qui agit toujours aujourd'hui, et qui, je crois, agit encore avec plus de force.
Oui.
Il y a quelque chose qui dépasse nos existences. On a un sentiment qui s'adresse à nous, évidemment, mais que les générations qui vont suivre vont entendre cette voix, continueront de l'entendre. Hein. C'est la grâce de l'enregistrement. Hein.
Oui, et vous dites d'ailleurs, ça c'était étonnant, pendant les quatre années de l'occupation, les Français ne connurent l'apparence humaine de Charles de Gaulle, que le son de sa voix.
Oui.
On a du mal à l'imaginer.
Oui.
On l'a découvert à la Libération.
Il faut penser que les gens qui se massent sur les Champs-Élysées, évidemment c'est pour se réjouir, mais c'est pour voir le visage de cet homme.
Voilà, c'est pour voir le visage de cet homme. Merci beaucoup, Étienne de Montetti et Michel Bernard. Alors, je rappelle quelques-uns des titres des ouvrages que nous avons évoqués. La tranchée de Calonne, Les forêts de Ravel, Le corps de la France, Les bourgeois de Calais, Deux remords de Claude Monet. Alors, je ne sais pas par lequel vous devez commencer. Lequel conseilleriez-vous?
J'ai dit que Le corps de la France était une bonne introduction à la suite.
Bon, alors, mais lisez-les tous. Voilà mon conseil à moi. C'était Réplique. Et le tout est édité à la table ronde, hein, je l'ai dit.
Oui.
C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Fabien Capel. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Où va la France? Mes invités seront Aquilino Morel et Denis Oliven. Dans un instant, Concordance des temps avec Jean-Noël Jeannonet.